de clans, de tribus, et qui en étaient privés, parce que la révolution russe a dispersé le peu de familles qui a survécu aux quatre coins du monde. Et dans ma famille immédiate, c'était toujours moi qui essayais de tenir cette famille ensemble, et ça me manque, hein, ça me manque physiquement. C'est la déchirure dont parle Olga, moi je la ressens comme ça aussi. Il me manque quelque chose. Mais en même temps, je préfère qu'il manque ça, mais que je reste moi-même. C'est un besoin énorme de rester intègre et fidèle à soi-même. Donc, ce vide, je le comble quotidiennement, que ce soit avec la musique, avec les rencontres ou avec la méditation. Et en s'acceptant soi-même, tout simplement. Parce que c'est pas toujours évident de s'accepter soi-même quand la majeure partie des gens autour de vous, toute votre vie, ne vous ont pas accepté tel que vous êtes.
Olga, tu as ressenti aussi ce rejet parce que différent, donc on...
Ah oui, 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 bien sûr.
On refuse, oui, on écarte, on se méfie, oui. On a peur, enfin.
Oui, oui, bien sûr, et puis j'ai bien compris de quoi il vient même, ce rejet, oui. Mais c'est évident, mais je me demande finalement, à la longue, je me suis demandé c'est qui rejetait qui. Finalement, est-ce que c'est moi la victime ou c'est moi la coupable? Et puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'est moi qui rejetais toutes les valeurs qu'on me proposait, toutes les valeurs de cette société-là, que je les offens quand je les rejetais, ou même si je semblais l'accepter, c'était... Je feignais l'accepter, mais ça devait se sentir. Donc, au fond de compte, oui, si quelqu'un ne partage pas nos amours, on ne l'aime pas trop. Je me sentais mal aimée, c'est évident. Maintenant, j'ai appris à être un peu plus prudente. Je m'expose moi. À une certaine époque, je me suis exposée beaucoup et puis ça m'a coûté beaucoup. Même à Genève, mon divorce a défrayé un petit peu les chroniques. Et j'étais une parfaite victime, mais je comprends que j'étais une victime qui provoquait. Hein, provoquait cette espèce de... Bon, voilà, on a envie de lui rentrer dedans, ouais. Voilà. Donc maintenant, j'ai appris un petit peu à me protéger. Et puis c'est aussi avec la sagesse, c'est aussi peut-être le parcours individuel. C'est pas forcément parce qu'on est tzigane, on est comme ça. Mais je pense qu'il y a cette partie de tziganité, en guillemets, qui fait qu'on a envie de mettre au défi les autres. On a envie. On a envie de pousser un petit peu.
Petit côté provocateur.
Pour voir où ils sont vrais. Mais ce n'est pas méchant, pour voir où ils sont vrais, où réellement on peut compter sur eux, où la déclaration qu'on vous fait correspond à le réel sentiment. Mm-hmm. Voyez, c'est pour ça, et puis personne n'aime ça, parce que hein, quand c'est pas vraiment si ardent qu'on prétend, alors on n'aime pas qu'on dévoile ça. Moi, j'ai l'impression que les gens comme moi, Vera, peut-être Sophie, quand on vient comme ça, encore trop sauvage, on est comme les miroirs un peu des autres. Et puis, on n'aime pas quand un miroir nous dévoile des côtés pas très beaux, peut-être même pas beaux, mais pas les mêmes ce qu'on voulait voir.
Et puis il faut dire une chose, que c'est un constat, la liberté fait peur.
Exactement.
La différence de tout temps fait peur.
Les gens sont jaloux de notre besoin de liberté. Et quand on peut arriver à l'acquérir, les gens en sont très jaloux. Et c'est certains qui nous mènent la vie dure à cause de ça.
Parce qu'en même temps, c'est attirant. Voilà. Moi, je crois que je peux imaginer que les gens ont eu peur de la différence, mais en même temps, ça devait les attirer énormément. Je ne veux pas me mettre à l'extérieur. Ça m'attire aussi, par exemple, si je devais parler de moi.
Non, et puis, c'est clair, il y a toute cette construction de romantico-exotique du regard du non tzigane sur le tzigane. Et cette famille, je retrouve ça aussi un peu vis-à-vis du russe et l'âme russe, l'âme slave. Et c'est peut-être pour ça que l'âme russe, l'âme slave et l'âme tzigane se rapprochent beaucoup. C'est peut-être pour ça que c'est encore en Russie où ils étaient les moins maltraités.
Et en Pologne aussi, ils ont bien vécu.
Mais en même temps, il y a cette base de racisme. Et c'est la base du racisme, c'est la peur. La peur de la différence, la peur de ce qui gêne, de ce qui pourrait nous sortir de nous-mêmes, et de nous voir en face pour ce qu'on est nous-mêmes. Mais c'est surtout, j'ai constaté que c'est les gens ont peur de cette liberté que moi j'ai toujours pris. Je l'ai saisi, je l'ai pris. On a essayé de m'en empêcher, mais je l'ai toujours pris de force. Je ne me suis jamais laissé faire.
Sophie, oui, excuse-moi, vas-y. Finis ce que tu voulais dire.
Je dis ce besoin de liberté, c'est pour nous c'est comme boire et manger. C'est un sentiment très fort. Quelquefois on ne le réalise pas. Disons que moi par exemple dans mon cas, j'ai toujours eu ça et je ne savais pas pourquoi. C'est comme le besoin de vivre dehors. J'ai toujours voulu vivre dehors.
Exactement.
Toute gamine, je faisais énormément de sport parce que j'étais dehors. Et quand j'ai grandi, après, j'ai commencé à faire du camping et j'adorais. Je ne pouvais pas être enfermée pendant mes vacances, mes 3 mois de vacances d'étudiante. C'était sous la tente, ce n'était pas autrement. Et quand on m'a dit tu vas travailler dans un bureau parce que j'ai loupé mes examens de bac pour faire prof de gym, on m'a dit tu vas travailler. J'ai dit moi, être enfermée 8 heures par jour, mais vous êtes fous.
Ouais.
Et je ne savais pas que j'avais ce sang gitan. C'était en moi, c'était inné. Mmh. Et je vous assure que quand j'ai dû commencer à travailler, mais quand j'ai vu ce film hier, Unanima Hindu.
Hindu et Hindu, divisé en deux, oui.
Mais j'ai vu cette petite qui était là dans cette usine et qui commençait à être. Et je me suis revue, moi.
Oui, au bureau.
Au bureau.
C'était ça. Résume un tout petit peu le film pour qu'on comprenne le lien que tu fais avec le film.
Eh bien, il s'agit d'une jeune gitane qui rencontre un gadget, il tombe très amoureux. Et finalement, ils se marient, mais pour survivre, lui doit travailler et elle aussi, puisqu'ils n'ont plus de contact. Lui, il n'a pas de contact avec sa famille et elle, elle est coupée de son clan.
Donc, chacun rejeté à cause de la rencontre. Oui.
Alors, il lui trouve du travail dans une usine où on lui donne des choses à piquer à la machine, des boutonnières à faire avec des machines. Donc, c'est du travail à la chaîne. Elle fait tout le temps le même geste, 3 boutonnières à longueur de journée et elle étouffe, elle n'en peut plus, elle en tombe malade.
Elle
doit
vomir,
absolument sortir.
Respirer.
Elle doit sortir, respirer, et puis elle a des problèmes de digestion. Elle est obligée de quitter ce travail parce que physiquement, elle n'arrive pas à le faire parce qu'elle est enfermée.
Et toi, ça te rappelle
et moi, j'ai vécu ça, et sans le savoir, parce que je ne comprenais pas très bien pourquoi je réagissais comme ça. Et bon, ma famille a... Je voyais ça d'un très mauvais œil parce que j'étais tellement indépendante aussi et que je fuguais sans arrêt comme Vera, la même chose. J'avais besoin de partir, de bouger, de m'en aller. Et encore maintenant, j'ai le diable derrière moi parce que dès que j'ai 3 sous, je prends la voiture et je pars en Turquie, en Grèce, en Norvège. C'est plus fort que moi, c'est un besoin. C'est quelque chose qui me pousse et je ne l'expliquais pas avant. Et du jour où on m'a dit que j'avais ce sentigan, alors j'ai tout compris. Alors maintenant, je l'accepte d'autant mieux.
L'explication de la maladie, comme disait.
Non, mais je dis, c'est parallèle, c'est pas une maladie,
non,
mais c'est le phénomène
compris,
est parallèle.
Oui. Shabu na putato, butilero mudale tu. La 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 la, da da di da di da na na. Oh la 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 la, da di da da na na. Oh la 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 la, da di da na na. Da di da di da di da di da na na. Oh la 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 la, la 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 la, da la 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 la. Toujours dans Ondes Femmes, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Nous sommes en compagnie de Olga, Vera et Sophie, qui, avec lesquelles nous échangeons ce que cela veut dire de vivre avec du sang tzigane dans les veines et comment notre vie peut en être bouleversée. Des choses peuvent être vraiment très, très différentes des autres et influencer notre vie. Alors, je vous propose d'écouter encore une chanson magnifique de Marcella, de musique que nous a amenée Vera tout à l'heure. On dit souvent que les tziganes sont voleurs de poules, qu'ils...
comme dit mon mari.
Mais, et donc, ce qui justifie parfois l'exclusion, on ne veut pas qu'ils s'établissent proche des villages, et toutes sortes de mesures étaient prises dans beaucoup de pays d'Europe pour éviter que les gens du voyage s'arrêtent quelque part, parce que, pour ne pas qu'ils dérangent la vie de tous les jours des gens. Très concrètement, vous, vous ne vivez pas ça parce que vous menez une vie
hors, tribu.
Hors du campement, ouais. En partie sédentarisée, mmh. Effectivement. Alors, là, l'exclusion dont vous avez parlé tout à l'heure, le doigt pointé sur votre façon de vivre, j'aimerais bien qu'on puisse essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce que je crois que c'est peut-être difficile quand on est de l'extérieur de sortir de ces images classiques, clichés, qu'on colporte toujours à propos des tziganes et puis qu'on sache ce que ça veut dire dans une vie de tous les jours pour quelqu'un qui se sent différent, qui sait d'où vient sa différence, mais les autres, visiblement, ne la comprennent pas et ne l'admettent pas. Alors, est-ce que chacune, si c'est possible, vous seriez d'accord de nous donner un exemple de cela pour qu'on comprenne mieux ce que ça veut dire ?
Bon, moi, j'en ai plusieurs. Je me suis le fait que je ne réagis pas et je ne me comme une femme, une gadget vis-à-vis des hommes, je ne reconnais pas leur autorité. Je me défends. J'ai quelqu'un qui a toujours défendu jusqu'à ce qu'on m'assomme et je me bats. Et c'était jamais un seul. Ils étaient souvent plusieurs. J'ai souvent fini à l'hôpital avec des trous à recoudre parce que je ne me pliais pas. Au désir, pas nécessairement sexuel, mais en général aux hommes. Et un autre exemple, c'est j'avais un voisin qui, Dieu merci, est décédé maintenant, que Dieu ait son âme, qui avait une hargne contre moi. C'était des pétards dans ma boîte aux lettres, des lettres volées, des carreaux cassés, des mensonges répandus, une haine qui crachait sa haine contre moi. Et moi, je ne lui avais jamais rien fait.
Et il identifiait ça, il disait la tzigane, ou là, je sais pas
non,
quoi, il n'y avait pas une appellation.
Non, il n'y avait pas une appellation, mais il y avait
une façon de vivre.
Ma façon d'être, de vivre l'énergie, ce que j'aimais. En tant que tzigane, bon, l'autre soir, on a vu au festival, j'étais au concert, au premier concert le samedi, et là, j'ai mis toute la panoplie.
Et en... Je veux dire quoi. Attention, vos micros.
Bon, la manière de se coiffer. Donc je me suis mis en romnie, donc en femme tzigane, la longue jupe, la coiffure, les boucles d'oreilles, le châle et tout le toutime que j'adore, je trouve ça me va très bien.
Mais
d'ailleurs.
C'est très joli.
En revenant pour aller rejoindre ma voiture dans le parking, et bien dans la rue j'ai été insultée. Et pourtant c'était quoi ? Quand je suis partie c'était 2-3 heures du matin, il restait quelques badauds, mais c'était les moqueries et les insultes, mais je savais très bien, et là j'étais parfaitement consciente que je l'avais indirectement ou même directement provoqué. Bon, ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude.
Oui, mais bon, s'habituer à être mise à l'index, ouais. c'est peut-être une mauvaise habitude.
Ouais. Et quant à voler des poules, vous savez, les tziganes, quand ils voyagent, si on ne leur donne pas du travaux, parce qu'ils viennent, ils frappent aux maisons, ils vendent les nécessaires de couture, des aiguilles, ils font des travaux, des réparations et tout. Mais si tout le monde leur ferme leurs portes, il y a plein de gamins qu'il faut nourrir, on a faim, alors on va prendre ce qu'on a besoin. Ce n'est pas du vol, c'est de la libération.
C'est ce qu'on disait avec Sophie la semaine passée, que finalement, c'est la survie aussi.
Tout à fait. Mais moi, je vais ajouter à propos aussi de cette histoire de vol, que si vous entrez dans un campement de tziganes et vous avez froid, puis il y a une veste qui traîne, vous la prenez, personne ne va vous courir
Exactement.
Derrière. Et puis s'il y a un bout de poulet qui est là et puis vous avez faim, vous
le
prenez
vous
sans demander, on va vous le donner.
La
première chose d'ailleurs qu'on va vous demander, c'est que vous avez faim et soif.
Voilà. C'est la première chose,
on vous apprend.
Vous prenez ce que vous voulez, quelque chose vous plaît, vous prenez. Vous prenez une petite vase à fleurs parce que vous dites, elle est jolie, mais on vous la donne. Prenez-la. Il n'y a pas un attachement, comme ça,
non,
la propriété privée,
voilà,
c'est...
Il n'y a pas
c'est pas
le sens de la possession, comme chez les gadgets.
Je peux raconter justement une anecdote magnifique à propos de Django Reinhardt, donc qui a vécu, Django Reinhardt, guitariste manouche, qui a vécu pendant 10 ans dans les faubourgs de Paris, et personne ne savait, donc parmi ses voisins, que c'était un guitariste connu mondialement, le meilleur guitariste qui existait. Il a pris sa retraite. Et quand il était mort, donc évidemment, il y a tous les Rolls qui sont venus, etc. Mais ce qui est le plus curieux, que sa veuve, tout à fait consciente de la valeur des objets qui appartenaient à son mari, donc a pris ses guitares, a pris ce bout de partition qui gribouillait comme ça parce qu'il a tout petit peu appris. Elle a tout brûlé. Ah, mais ça valait les millions, les guitares de Django. Elle a tout brûlé.
Mais ça, c'est la parce tradition. Que c'est la tradition. Voilà. Quand voilà. Tout ça, voilà. Sa roulotte et tous ces objets.
On ne parlait pas tous en même temps. Quelle est la tradition quand on va? Qu'est-ce qui se
qu'on
passe
brûle, qu'on brûle, quand on va, on brûle tous ces objets personnels, même jusqu'à la caravane. Bon, maintenant, on ne les brûle pas parce que ça coûte trop cher et puis on n'a plus moyen. Souvent, on la vend au gadget. Hein. Par contre, on ne vend jamais une caravane ou de quelqu'un mort à un autre tzigane. Ça, c'est très grave.
Mais alors, est-ce que toi, voilà. Olga, tu pourrais une nous raconter douloureuse, comme Véran, ou une histoire douloureuse qui t'a particulièrement marquée?
Oui, elle est très douloureuse, et puis je la porte moi depuis 10 ans. J'hésite un petit peu à dire, mais c'est l'histoire donc, de mon ex-mariage, mon précédent mariage. Déjà, donc, dans la famille, et puis parmi les amis, et puis les gens qui fréquentent les restaurants, donc de mon ex-mari, je sentais aussi que je venais un petit peu comme un parvenu, c'était une mésalliance. Hein. Pas forcément tzigane, il n'avait pas conscience que j'avais des origines tziganes, mais ma manière d'être, être une polaque, et puis vouloir régner. Mais effectivement, peut-être comme ça, on a une attitude de régner quelque part. C'est-à-dire, on prend les choses en possession, on les manie puisqu'ils sont là. Mais je crois que ce n'était pas très apprécié. Donc les gens appréciaient les restaurants parce que c'était un lieu magnifique, hein, Genève. Hein. Mais en même temps, je sentais toujours qu'il y avait un dent contre moi comme ça. Et au moment de divorce, donc on ne m'a pas pardonné, que j'ai tombé amoureuse d'un autre homme, malgré que ça n'allait pas très bien avec mon ex-mari. Et puis voilà, et puis les choses ont allé vraiment. Il y a une espèce de violence contre moi qui s'est. Un complot presque des clients qui, la veille ou 2 jours auparavant, encore me flattaient, venaient manger à ma table, et que tout à coup me traitaient de tous les noms. Vraiment, moi, même ma mère qui vit aussi, là, tout. C'était quelque chose d'épouvantable, et ça allait jusqu'au. Et puis le jour que je voulais tout simplement, par défi, de me servir des dîners. Dans ma propre maison, qui était encore ses cafés. Mon ex-mari m'a agressé, je voulais me débattre. Et puis évidemment, je l'ai mordu dans les bras. Et ces bras mordus de mon ex-mari faisaient la une de tous les journaux. On m'a amené au poste de police, on m'a enfermé dans une cellule. En me disant que je vais juste paraître devant les juges, on m'a pris tel que j'étais. On m'a mis dans une cellule de 4 mètres carrés avec un chiotte turc, excusez-moi les mots, qui déversait toute la nuit, avec la porte blindée, avec la lumière qui clignotait tout le temps, avec un banc en béton. Il n'y avait même pas de lit. Heureusement, dans ma comme ça, quand j'étais énervée, j'ai pris pas mal de couvertures militaires qu'on me tendait, que je pouvais me couvrir. Il y avait une aération qui hurlait, alors je la bouchais. Ensuite, je devais la déboucher parce que je ne pouvais pas respirer. Gesticule trop. J'ai ce sentiment, justement, d'être enfermée, même qu'il y a des fenêtres et des murs. Et là, c'était la folie. On m'a dit, mais on va vous libérer à 7h le matin. Et pour moi, c'était l'impression que je vais rester. C'était une éternité. Jusqu'à 7h du matin, dans cette espèce de. Alors, je ne savais pas comment faire. Et puis, heureusement, un dernier livre que j'ai lu, c'était Les vols de nuit de Saint-Exupéry. Et je me suis rabattue sur cette histoire-là. Et j'ai essayé de mémoriser cette histoire, je me la racontais à la voix haute et j'ai déchiré la couverture militaire comme ça. Je reprenais les fils parce qu'on m'a repris même les élastiques qui tenaient mes cheveux. Alors j'avais des cheveux qui me collaient sur le visage parce que je beaucoup pleurais pour pouvoir me faire une tresse. Et puis à 7h du matin, quand on m'a ramené devant le juge, c'était une femme, et je lui ai dit, madame, j'ai rien fait, je me suis défendue, ne me laissez plus aller dans cette cellule, je ne survivais pas. Et malgré tout, moi je dis, gardez-moi ici, mettez-moi les menottes, mais gardez-moi devant, il y a une fenêtre. Et rien à faire, on m'a refusé dans cette cellule. Et même quand j'ai frappé la porte, avant, quand on m'a rentré, même quand j'ai frappé la porte, personne n'est venu, on m'a donné un demi-gobelet de l'eau à boire. Vous savez, vraiment, les choses, comme on dit, que les tortures passent au tiers-monde, alors là, ce qu'on m'a infligé, j'estime que c'est quelque chose d'impardonnable à une simple ménagère que j'étais, hein, pas un criminel. Et ensuite, il y avait les procès, puis les journalistes qui écrivaient sur moi, Olga Dandur, elle a les vins mauvais, moi je bois vraiment très peu lors des fêtes, elle bat son mari, elle est passée quand même d'une tête, elle se promène avec une bande de gitans agressant, je ne sais pas quoi, mais des choses que je n'ai pas tout géré jusqu'à maintenant.
Vraiment un soulèvement de haine et de colère à l'égard d'une personnalité, de ta personnalité.
Voilà, et je ne comprenais pas parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais pour engendrer une telle haine de la belle famille qui tout à coup, je ne sais pas, voyait quoi. Et c'est, jusqu'à maintenant, je n'ai pas bien compris. Vraiment, comment c'est peut-être un caractère comme ça qui est un peu exubérant, mais comment ça peut pousser jusque-là?
Mais tu nous le racontes aujourd'hui, donc c'est que quelque part tu le lis maintenant, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, à cette force de caractère, à ces choix de vie que vous faites parce que
cette
vous,
liberté,
vous sentez ce sens.
Cette franchise de dire non, de dire oui quand ça me plaît, sans me préoccuper des choses matérielles.
Vous êtes toujours dans Remue-Ménage, entre femmes, Radio Zone 93.8, excusez ce petit blanc. Sophie, dans la mesure de ton sang tzigane à toi, tu n'as peut-être pas vécu les mêmes choses que nos deux amis, mais quand même, tu as eu aussi des fois à te justifier auprès, par exemple, de ton père, et c'était difficile.
Oui, tout à fait, parce que bon, les femmes dans ma famille étaient très soumises, et moi, j'étais tout à fait à l'opposé, et mon père m'appelait la chèvre. Parce que j'étais comme la chef de Monsieur Seguin, j'avais toujours envie de me sauver, j'avais toujours envie de partir. Et déjà petite, j'avais une grand-mère qui arrivait plus à me tenir en place. Et on m'a mise en pension pour arriver à me domestiquer un petit peu. Mais après, ça s'est confirmé que j'avais ce besoin d'indépendance et de faire ce qui me passait par la tête en fait. Ensuite, quand est venu l'âge adulte de contracter un mariage, j'ai toujours reculé, j'ai eu plusieurs fiancés, et chaque fois qu'on m'a demandé en mariage, tant que la fiançaille durait, ça allait très bien, et puis le jour où on disait « bon, maintenant il faut te marier, il faut passer à l'acte pour aller à la mairie et à l'église. Et moi, à ce moment-là, j'étais paniquée complètement et je partais en courant parce que j'avais l'impression qu'on allait m'enfermer, que je ne pourrais plus vivre libre, qu'on allait m'imposer des règles, des lois, et que forcément, c'était pas forcément les miennes et c'était pas forcément ma façon de vivre. Et ça, c'était très, très important. Et bon, maintenant, j'ai déjà un certain âge et je suis toujours au même point. J'ai toujours cette peur panique qu'on m'enferme, qu'on m'empêche de vivre la vie comme j'ai envie de la vivre. C'est-à-dire l'indépendance, la liberté, le besoin de voyager continuellement, de partir à droite, à gauche, sans plan, absolument au hasard, en improvisant. Et c'est ça mon bonheur, c'est ça mon plaisir. Bon, c'est sûr que j'aime avoir un compagnon, mais dès qu'il essaye de m'enfermer dans des règles ou qu'il commence à être jaloux, c'est fini, je me sauve.
Ah oui, tu mets une cage autour de toi.
Je me protège.
Alors, la seule chose qui nous vient dans la tête quand on nous enferme, c'est de fuir.
Ouais. Je vois Vera qui craque. Elle est en train de prendre la cigarette à la main. Paraît-il que ça, c'est aussi un atavisme de cigarette.
Très souvent, il commence vers l'âge de 2 ans.
Ciel. Alors, je propose qu'on lui laisse le temps de se fumer une cigarette en dehors du studio parce que notre petit nid d'amour est si petit qu'on en suffoquerait. Elle ne supporterait pas non plus toutes les trois. Et puis, tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on reprenne ce que tu viens de dire, Sophie, parce que quand même, ce qui m'étonne, et tu nous l'as raconté la semaine passée, c'est que la vie dans les campements tziganes est très réglementée, est très organisée.
Ouais.
Donc, c'est pas si libre que ça, non. D'après ce que tu nous racontais, en tout cas, la semaine passée. Alors, comment faire coexister à la fois cet esprit de liberté, puis ces règles de vie. Mmh. Et est-ce que vous, toutes les trois, chacune pour vous, vous avez une fois eu envie d'aller rejoindre un campement de tziganes? Alors, c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure.